parmi ceux que nous avons déjà lus hein, en première partie de ce culte, à savoir l'évangile, dans l'évangile de Jean, les versets 30 et 31. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Alors, vous remarquerez que dans ces versets, il y a un terme qui revient deux fois, c'est le terme « croire ». Jean, l'apôtre Jean, donc, l'auteur de cet évangile, affirme que tout ce qui a été écrit a un seul objectif. Quel est cet objectif? C'est donner naissance à la foi en Jésus, afin d'avoir la vie éternelle. Alors, il est intéressant de remarquer que dans cet évangile particulier de Jean, le mot grec « croire », dans le sens de croire en Jésus-Christ, ainsi que les différentes formes de ce mot, les formes conjuguées, apparaît 98 fois, largement plus que dans tous les autres évangiles réunis, hein, Matthieu, Marc et Luc. Alors, ça semble donc montrer que l'évangéliste, donc l'apôtre Jean, a vraiment voulu insister sur cette notion de foi en Jésus-Christ. Mais de quelle foi a-t-il voulu parler? Nous allons nous cantonner, entre guillemets, sur cet évangile de Jean. Et nous allons voir que l'apôtre, donc l'auteur, l'apôtre Jean, semble montrer qu'il y a deux dimensions de la foi. Deux dimensions de la foi qu'on va voir ensemble. La première dimension, c'est ce que j'appellerais une foi incomplète. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Il est intéressant de voir d'abord quelles sont les différentes circonstances dans lesquelles les gens qui étaient témoins du ministère de Jésus, qui le côtoyaient, quelles ont été les circonstances dans lesquelles ces personnes-là ont commencé à croire en lui, ont commencé à mettre leur confiance en lui. Et on peut voir, dans les premiers versets de l'évangile de Jean, qu'il y a d'abord un rôle important de Jean-Baptiste. L'apôtre met en évidence ce rôle qui avait pour le rôle de Jean-Baptiste qui avait pour mission d'annoncer, de témoigner du caractère messianique de Jésus, c'est-à-dire de proclamer qu'il est celui que les Juifs attendaient depuis longtemps, le Messie. Et dans Jean 1:29, il proclame aussi Jean-Baptiste, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et plus loin, il ajoute: « Je l'ai vu de mes yeux. Je l'atteste solennellement. Cet homme est le Fils de Dieu. » C'est dans le verset 34 du même évangile, chapitre 20. Et suite à ce témoignage de Jean-Baptiste, certains ont voulu en savoir un peu plus. Ils ont suivi Jésus. Ils ont demandé « Où est-ce que tu habites? On aimerait savoir. » Puis Jésus qui dit « Ben, viens. » Et parmi ces personnes, il y avait un certain André, un certain Pierre, Simon-Pierre, un certain Philippe, un certain Nathanaël, qui sont ensuite devenus les disciples de Christ. Mais par ailleurs, il y a aussi d'autres personnes qui se sont mis à suivre Jésus, beaucoup de personnes. Et plus tard, un bon nombre de ces mêmes disciples, donc, c'est-à-dire qui ont manifesté un certain attachement à lui, vont finalement se rétracter. Dans Jean chapitre 6, verset 66, on voit que beaucoup l'abandonnèrent. Il semblerait donc que cette foi, même sincère, était une foi finalement incomplète, fragile, immature. Mais il est important, quand nous entendons un témoignage, d'y prêter attention. Le témoignage de quelqu'un qui a vu, de ses yeux spirituels, on va dire, parce que nous n'avons pas vu physiquement le Seigneur Jésus. Mais les chrétiens qui ont cette conviction qu'ils appartiennent à Dieu et qu'ils appartiennent à Jésus ont cette tendance, et c'est heureux d'ailleurs, de témoigner de leur foi, n'est-ce pas ? Ça vous est peut-être déjà arrivé. Et ces témoignages sont importants pour susciter justement au moins la curiosité de la part des personnes qui écoutent le témoignage. Donc suite au témoignage, ils ont cru, mais ils ont cru aussi suite à des révélations spéciales de Jésus sur eux. Je m'explique. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Nathanaël, alors Nathanaël, paraît-il que c'est la même personne que Barthélemy. Hein. Le nom aurait changé, mais c'est le même disciple, Barthélemy. Ce qui s'est passé avec Nathanaël, Jésus lui a donné une révélation sur lui. Il a dit, je t'ai vu sous le figuier, alors que Jésus n'était pas présent. Et suite à ça, Nathanaël dit, Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Suite à une révélation de Jésus sur lui. Mais néanmoins, cette foi de Nathanaël a été un peu critiquée quand même par le Seigneur Jésus. Il a dit, tu crois ? Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Donc là encore, une foi naissante, certes, mais encore incomplète, encore critiquable, insuffisante aux yeux du Seigneur. Après, il y a les miracles de Jésus. Beaucoup ont cru suite aux miracles de Jésus. Les disciples, quand ils ont vu Jésus changer l'eau en vin, dans Jean au chapitre 2, il est dit qu'ils ont cru. Alors que deux jours auparavant, ils avaient aussi cru en voyant Jésus. Donc une foi qui se renouvelle un peu, qui a besoin d'être confirmée, d'être consolidée, une foi encore fragile. Dans Jean 2, chapitre 23-25, il est écrit aussi que beaucoup de gens crurent en lui, en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. En effet, il n'avait pas besoin qu'on les renseigne sur les hommes, car il connaissait le fond de leur cœur. Il y a des gens qui apparemment, oui, je crois en toi, j'ai confiance en toi. Mais Jésus n'est pas dupe. De par sa nature divine, il sait exactement ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il sait exactement ce qu'il y a dans le cœur de chacun d'entre nous ce matin. Nous, peut-être que nous avons confessé notre foi en Jésus-Christ. Et aux yeux des hommes, peut-être, ah oui, très bien, c'est un chrétien fervent. Mais nous ne connaissons pas les cœurs, seul Jésus connaît les cœurs. Et là, en tout cas, il savait très bien pourquoi certains croyaient en lui. Il a dit dans Jean 4, 48, « À moins de voir des signes miraculeux et des choses extraordinaires, vous ne croirez donc pas ?» Certains ont cru aussi suite à une parole de Jésus. Dans le cas, c'est le cas du haut fonctionnaire. Dans Jean chapitre 4, verset 50, son fils est mourant. Il va aller voir Jésus pour lui demander de sauver son fils. Et qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Va, rentre chez toi, ton fils est bien portant. Voilà, c'est tout ce qu'a dit Jésus. Et le haut fonctionnaire croit Jésus sur parole. Mais plus loin, au verset 53, la foi du papa a pris une autre dimension. Parce que quand il a constaté qu'effectivement son fils était guéri, qu'il le voyait de ses yeux, la parole dit, il crut, et toute sa famille. Donc il avait déjà cru Jésus sur parole, mais quand il a vu le fils qui était vivant, il crut encore. Donc c'est une foi encore incomplète, une foi qui semble progresser. En fait, l'apôtre Jean veut montrer que la foi dont font preuve les congénères de Jésus-Christ pendant son ministère terrestre était une foi, certes sincère, mais encore immature. Chez toutes ces femmes et ces hommes qui ont suivi Jésus, il y avait une certaine adhésion à l'enseignement de leur maître. Mais manifestement, il manquait un petit quelque chose. J'allais dire même un grand quelque chose, un très grand quelque chose. Et ce quelque chose, c'est un événement extraordinaire qui est au centre de la foi chrétienne. Un événement qui va donner à la foi en Christ son véritable sens. Un événement que nous célébrons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui ? Oui ? Pâques, oui, mais surtout, la résurrection. Oui. La résurrection. La résurrection est le fondement d'une foi authentique. Dans le film Jésus l'enquête, je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui l'ont vu, un film qu'on espère pouvoir voir dans 2 semaines, ce n'est pas encore sûr. Mais dans ce film, en tout cas, un athée qui voulait déstabiliser la foi de sa femme s'était convertie, ben cet athée-là entreprend de démontrer que cette foi, la foi de sa femme, n'est pas fondée. Et quelle est sa démarche ? C'est de chercher à prouver que la résurrection de Jésus est impossible sur le plan rationnel, sur le plan scientifique. Ce qui montre que même athée, il savait que la foi chrétienne reposait avant tout sur l'événement de la résurrection de Christ. Et il a raison. Il a raison. Si la résurrection n'est qu'un mensonge ou une invention, la foi chrétienne n'a aucune raison d'être. Alors je ne vous raconterai pas la suite de l'histoire, hein. Je vous encourage à voir le film s'il passe encore quelque part. Mais en tout cas, il est vrai que la foi chrétienne, encore une fois, repose, la foi authentique repose sur la résurrection du Christ. La résurrection n'est pas une lubie qui est née de l'imagination des disciples de Christ, mais c'est une réalité historique. Est-ce que vous le croyez aujourd'hui ? Vous avez tous répondu, il est vraiment ressuscité. C'est une réalité qui a été attestée par plusieurs témoins, dont l'apôtre Paul, qui l'a dit aussi. Il n'a pas été un témoin direct, mais Jésus lui est apparu. Il a dit, il est ressuscité le troisième jour, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Vous croyez-vous à une illusion générale ? Moi, non. Moi, non. C'est une réalité. Alors, on peut dire qu'avant la résurrection, donc les apôtres avaient une certaine foi. Mais malgré cela, d'ailleurs Pierre, vous savez, la confession qu'il a faite, une confession extraordinaire dans l'évangile de Jean, il a dit « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi, nous savons que tu es le Saint, envoyé de Dieu. » C'est pas une belle confession ça ? Mais malgré leur foi, les disciples vont abandonner le Seigneur. Pierre va renier 3 fois le Seigneur. Qu'est devenu sa foi à ce moment-là ? Mais le Seigneur Jésus dit, hein, le Seigneur Jésus l'avait dit aussi dans Jean chapitre 16, versets 31-32, « Ainsi donc vous croyez à présent. » Parce qu'il voyait que ses disciples manifestaient une foi, en tout cas confessaient leur foi devant leur maître. Il dit, « Vous croyez à présent, mais l'heure vient. Elle est déjà là où vous serez dispersés chacun de son côté et vous me laisserez seul. » La résurrection a changé beaucoup de choses. L'apôtre Thomas, nous l'avons lu tout à l'heure, avant de constater que son maître était vivant, il était encore dans le doute, avec une foi sérieusement vacillante. « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Et souvent, c'est rentré dans la manière de parler contemporaine. « Moi, je suis comme saint Thomas, je ne vois que ce que je crois. Pardon, je ne crois que ce que je vois. » Mais une semaine plus tard, Thomas voit Jésus. Et qu'est-ce qu'il dit ? Mon Seigneur et mon Dieu. Jusqu'ici, Thomas a cru en Jésus, le rabbi, l'enseignant. Il a cru en Jésus, le faiseur de miracles. En Jésus, l'homme rempli de sagesse, d'amour. Le Jésus charismatique qui rassemble des foules entières. Mais maintenant, il croit en Jésus, le Dieu incarné. Mon Seigneur et mon Dieu. Parce que la résurrection, c'est aussi la confirmation éclatante de la divinité du Christ. C'est après la résurrection de Christ que la foi des disciples a pris une toute autre dimension. Désormais, leur foi repose sur une base inébranlable, puisque de leurs yeux, ils ont vu, ils ont constaté le ressuscité. Du coup, tout ce qu'ils n'avaient pas encore compris du temps où leur maître les enseignait, c'est devenu une conviction profonde en eux. Leur foi a pris un sens plus noble, C'est l'éclosion de la foi authentique. Dans Jean 2, 22, voici ce que dit la parole. « Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dit. » Là, c'est une foi authentique. Alors que peu de temps avant, ils avaient cru aussi à cause du miracle de Cana, à cause de plusieurs choses. Hein. Leur foi, au début, était sincère et fragile. Mais maintenant, elle est une foi basée sur le fait que Jésus est vivant. Et si Jésus est vivant, chers amis, ça change tout. Ça change tout. Ça veut dire que toutes les promesses entendues par les disciples de la bouche du Christ vont effectivement se réaliser. La mort est vaincue. Ils vont également ressusciter un jour. Parce que la résurrection de Christ, c'est aussi la garantie de notre propre résurrection corporelle, un jour. Imaginez que Christ n'était pas ressuscité. La foi est vaine. La foi ne sert à rien. Il y a l'assurance de la vie éternelle, l'assurance de revoir. Pour les disciples, de revoir Jésus, mais pour nous, de le voir maintenant face à face, un jour. Vous rendez-vous compte? Voir notre Sauveur face à face. Et donc, à partir de la résurrection, les premiers chrétiens seront animés d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle foi. Une foi tellement authentique qui va les pousser à louer le Seigneur, par exemple, alors qu'ils sont emprisonnés dans leur cachot. Une foi qui va même déstabiliser l'empereur Néron, quand celui-ci voyait les chrétiens chanter alors qu'ils étaient dans l'arène, prêts à être déchiquetés par les lions. Une foi manifestée par une certaine Marie Durand, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, au XVIIIe siècle, était enfermée dans une tour, la tour de Constance, pendant 38 ans. Elle avait écrit « Résister ». Ça, c'est une foi. Et plus près de nous, une foi qui est mise régulièrement à l'épreuve par la persécution qui sévit encore dans certains endroits du monde. Mais peut-être que vous vous retrouvez aussi dans cette foi authentique aujourd'hui. Une foi inébranlable en notre Christ. Mais sans l'assurance de la résurrection de Christ, notre foi est une foi vaine, une foi illusoire. Alors en conclusion, la foi n'est pas une simple adhésion à des idées ou à l'acceptation de certaines choses comme étant vraies. La foi, ce n'est pas seulement le fait de croire qu'il y a un Dieu, ni de s'appuyer uniquement sur un miracle qu'on peut voir. Peut-être que vous avez été témoin de quelque chose d'extraordinaire de la part de Dieu et qu'à ce moment-là, vous avez cru. La foi commence d'abord par l'attitude par laquelle l'être humain abandonne toute confiance en ses efforts pour obtenir le salut. Cette foi se manifeste par un attachement sans faille à une personne, c'est-à-dire à Christ. Celui qui croit de cette manière-là demeure en Christ et le Christ demeure en lui, dit la parole dans Jean 15, verset 4. Alors c'est vrai que de nos jours, celui qui est chrétien n'a pas vu de ses yeux physiques le Christ ressuscité. Nous n'avons pas touché son côté ni ses mains percées, n'est-ce pas ? Notre foi aujourd'hui est née de ce que nous avons entendu, des témoignages qui nous sont parvenus de génération en génération de chrétiens. Cette foi est surtout suite au témoignage écrit qui nous est resté et qui est absolument digne de confiance. Savez-vous quel est ce témoignage écrit ? La parole de Dieu. La parole de Dieu est absolument digne de confiance. Et c'est cette parole que nous avons lue tout à l'heure qui atteste que Jésus est ressuscité. Et on peut se poser la question, quelle est notre conception de la foi ? Est-ce que notre foi se limite à une vague croyance en Dieu, une vague croyance à l'au-delà ? Ou bien attendons-nous des choses surnaturelles dans notre vie avant de croire ? Il y a des personnes qui disent, ben non, moi j'ai pas encore la conviction du péché. Pourtant j'aimerais croire, hein, mais bon, je ne sais pas, j'ai... Ou alors peut-être c'est une foi superficielle, on a donné notre vie à Jésus, semble-t-il, et finalement notre vie de tous les jours semble prouver le contraire. Jésus avait dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 8, il est écrit « Vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez ». Est-ce que nous faisons partie ce matin de ceux qui aiment Jésus sans l'avoir vu? C'est une question que nous devons nous poser. Alors, chers amis, aujourd'hui le Seigneur nous offre le salut. Je ne sais pas combien de fois vous avez dû entendre cela lors d'une prédication. Mais à cet instant même, le Seigneur nous donne encore l'occasion de mettre notre foi dans le ressuscité. Rappelant aujourd'hui que Jésus est vivant et il est vraiment ressuscité. Nous l'avons dit ce matin. La Bible nous l'affirme. Et la Bible, comme je l'ai dit tout à l'heure, est digne de confiance. Elle était écrite par des hommes inspirés de Dieu, qui ont témoigné ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. Et Pierre aussi l'a proclamé vraiment d'une manière forte dans Actes chapitre 2, verset 32. Il a dit « Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle, nous en sommes tous témoins. » Alors, si nous pensons, frères et sœurs, que Jésus est le Fils de Dieu, c'est bien. Si nous savons qu'il a le pouvoir de nous pardonner tous nos péchés, c'est bien aussi. Si nous sommes persuadés qu'il peut nous accorder la vie éternelle, ah, c'est super. Mais c'est insuffisant. Il y a encore un pas à franchir, à savoir passer de l'étape du savoir à l'étape du croire, dans le sens de mettre sa confiance sans réserve en Jésus-Christ ressuscité, dans le sens de croire avec une foi authentique. Aujourd'hui, ce matin, 1er avril, Dieu nous offre encore ce cadeau, le cadeau du salut. Est-ce que vous connaissez les poupées russes? Ça doit être bizarre hein, de dire ça d'un coup comme ça. Est-ce que vous connaissez les poupées russes? Voici une poupée russe. Elle a une particularité, cette poupée russe. Il y a plusieurs petites poupées à l'intérieur. Et j'allais dire que le cadeau de Dieu, c'est comme une poupée russe. Là, la poupée qui est là, c'est une poupée qui représente le salut. Mais le cadeau de Dieu renferme des privilèges extraordinaires, tout comme une poupée peut en renfermer d'autres. Le salut, le pardon des péchés, le don de l'esprit, le fait qu'on est enfant de Dieu une fois qu'on est sauvé, la vie éternelle, et encore d'autres, pas assez de place, la justification, la purification, etc., etc. Ces cadeaux sont là, frères et sœurs, tendus vers nous de la part de Dieu. Il suffit de lever la main. Lever la main avec foi pour les recevoir. La balle est dans notre camp. Qu'allons-nous en faire? Prions. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci Seigneur de ce que tu nous rappelles aujourd'hui, que tu es ressuscité. C'est une réalité. Nous voulons vraiment Seigneur te remercier de ce que tu as bien voulu, par ta résurrection Seigneur, nous offrir cette vie éternelle. Nous ne sommes pas dignes, mais dans ta grâce Seigneur, tu nous as offert gratuitement ce salut. Nous ne sommes pas dignes à cause de nos péchés. Mais toi, Seigneur, sur la croix, eh bien, tu as pris à ta place, à notre place, la punition qui devait nous, que nous devions, Seigneur, endurer. Nous devions être morts, punis, à cause de nos péchés. Mais c'est toi, Seigneur Jésus, qui t'es substitué à nous. Merci pour ce sacrifice. Et surtout, tu es vivant. Notre foi n'est pas vaine. Et Seigneur, si jusqu'ici elle était un peu vacillante, peut-être une foi immature, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons Voilà, tourner les yeux vers toi, le ressuscité, et te mettre entièrement notre confiance, sans réserve. Te dire, Seigneur, voilà, nous venons vers toi. Nous voulons t'accepter comme celui qui dirige notre vie, celui qui pardonne nos péchés, celui qui nous accorde la vie éternelle, celui qui nous donne le statut d'enfant de Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui encore tu sauves, et je veux prier particulièrement ce matin pour celles et ceux qui sont encore dans le doute. Peut-être une foi naissante mais insuffisante. Peut-être un élan d'affection vers toi, mais encore insuffisant pour être réellement sauvé. Seigneur, je te prie que tu touches les cœurs ce matin. Que tu touches, Seigneur, que tu fasses que les cœurs les plus durs, les plus endurcis, puissent capituler devant toi aujourd'hui. Seigneur, que ton esprit agisse puissamment dans ces cœurs. Peut-être qu'aujourd'hui, ce matin, parmi nous, il y a quelqu'un qui est dans le doute. Quelqu'un qui peut-être s'est approché à un moment donné de Jésus, mais qui n'a pas donné suite à son engagement. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui est écrasé sous le poids de la culpabilité, sous le poids de ses péchés, qui ne sait pas comment s'en sortir. Peut-être que ce matin, vous aimeriez bien vous approcher de Jésus, mais il y a quelque chose qui vous en empêche. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle. Aujourd'hui, c'est encore le jour du salut. Et je vais lancer un défi à l'Assemblée ce matin. Lancer un défi qui consiste tout simplement à faire un geste simple. Si aujourd'hui, vous avez entendu le message du Christ ressuscité et que cela a touché vraiment votre cœur et que vous étiez encore hésitant jusqu'ici, vous ne savez pas tellement comment vous situer sur le plan spirituel vis-à-vis de Jésus. Mais si aussi vous avez accepté, vous avez fait ce pas de foi, mais que peut-être vous vous êtes égaré, peut-être que cette foi s'est diluée dans le temps à cause peut-être des mauvaises influences de ce monde, eh bien aujourd'hui c'est le temps. Aujourd'hui c'est encore le temps pour dire, Seigneur, je m'engage avec toi, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés et je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Si véritablement c'est votre désir ce matin, eh bien je vais vous demander un geste simple. C'est tout simplement de lever la main. Levez la main si vous avez aujourd'hui décidé de suivre Jésus. Si aujourd'hui vous avez décidé de renouveler votre engagement envers ce Seigneur, de se dire, Seigneur, oui, maintenant, définitivement, je viens à toi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Oui, merci. 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 Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Ne regardez pas le voisin. Ne regardez pas le voisin. Dites-vous tout simplement, Seigneur, c'est entre toi et moi. Maintenant, voilà, je mets de côté toutes mes tergiversations, je mets de côté tous mes doutes. Je crois en toi, le ressuscité. Je crois en toi qui peux me pardonner mes péchés. Est-ce que quelqu'un est dans ce cas? N'hésitez pas. Aujourd'hui, levez votre main. Ouais, merci, merci. Voilà. Il est encore temps de dire, Seigneur, je viens à toi. Seigneur, jusqu'ici, ma vie était une vie rongée par la culpabilité. Seigneur, jusqu'ici, j'ai cru sans vraiment croire. Ça peut arriver aussi. Je viens ici à l'église, je ne sais pas vraiment pourquoi. Peut-être pour voir des sœurs et des frères. Mais là, maintenant, le Seigneur est là. Et ce n'est pas un hasard si tu es là ce matin. Ce n'est pas un hasard si il t'appelle. En tout cas, pour celles et ceux qui ont levé la main, on pourra prier ensemble à la fin de ce culte. Amen. Alors, nous voici à la fin de ce culte spécial Pâques. Je vais faire passer les corbeilles à offrande. Ce sont des offrandes. C'est une corbeille à offrande.